en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est l'animal domestique préféré des Français. C'est aussi un compagnon de route des écrivains, des artistes, des hommes politiques aussi, qui a aujourd'hui les honneurs de VMDN. Sa Majesté fourrée, aurait dit La Fontaine, qui ne portait pas le chat dans son cœur, et il n'était pas le seul, car le félin n'a pas toujours bonne presse. Il y a ceux qui louent sa liberté, sa sagesse, sa sensualité érotique. Il y a aussi ceux qui se gaussent de sa goinfrerie ou de sa fainéantise, ceux qui le craignent et le considèrent comme une figure satanique, au point même de le brûler. Une chose est sûre, le chat ne laisse personne indifférent, alors avec une patte de velours, dotée aussi de temps à autre de quelques griffes, l'écrivain Stéphanie Hochet donne à nouveau sa langue au chat et nous invite à un voyage érudit et sensuel à travers les siècles et les arts. Son éloge voluptueux du chat est paru aux éditions Philippe Ray, et vous m'en direz des nouvelles.
Tout le monde veut devenir un cat, parce que chaque quand il est cat retombe sur ses pattes.
C'est vrai,
tout le monde est piqué de ce pas si bien rythmé. Tout semble auprès de lui très démodé.
C'est comme les bottines à boutons.
Une cloche dès qu'il joue, sa trompette vous rend fou.
Ça swing comme un pied.
Mais oui, c'est pire que l'ennui. Oh là là, mes amis.
Quelle calamité.
C'est comme parmi ces gars qui veulent chanter.
Ben c'est un gars, le seul qui sache sa chaîne à swinguer.
Qui donc danserait encore la gigue avec des nattes
quand tout le monde veut devenir un gat.
Bonjour Stéphanie Hochet.
Bonjour Jean-François.
Vous avez évidemment reconnu la chanson phare des Aristochats.
Bien sûr.
La voix de Maurice Chevalier pour commencer cette émission. Vous évoquez le film, visiblement c'est un très bon souvenir pour vous.
Un très bon souvenir, surtout que j'ai eu le plaisir de le revoir pour écrire ce livre. Donc ça a été un plaisir que je me suis permis pour la bonne cause.
Avec donc cette chanson, tout le monde veut devenir un cat. Et tout le monde, sauf vous finalement Stéphanie Hochet, parce que vous ne voulez pas devenir un cat, devenir un chat. Vous l'êtes déjà un peu.
Exactement, je m'identifie tellement que je pense que j'ai une partie féline, une partie qui me chez moi qui restait un petit peu animale, et comme j'ai été élevée avec des chats, j'ai grandi avec des chats, il y avait même un chat dans mon berceau, je pense que j'ai une partie chat en moi que je conserve précieusement.
Mais comment et quand est-ce que vous êtes parvenu justement à ce rapprochement et même à cette identification?
Ah, je dirais que c'est assez ancien, puisque moi je vivais dans une maison en banlieue parisienne, j'étais entourée de chats, j'étais souvent seule parce que mes parents travaillaient, et puis voilà, le mercredi j'étais toute seule, quand je rentrais chez moi j'étais seule, et je profitais de ce moment pour m'entretenir avec les chats, etc. Et j'aimais bien avoir à peu près le même genre de vie qu'eux, c'est-à-dire de grimper dans les arbres, de me promener, etc., d'en faire un peu vraiment... enfin comme je voulais en fait, je me sentais totalement libre et un petit peu sauvage.
Mais quand on s'entretient avec un chat, pour reprendre votre expression, oui, on leur dit quoi?
Alors on peut leur parler, il y a beaucoup de propriétaires de chats qui leur parlent, mais aussi on peut beaucoup les observer et puis avoir cette interaction avec eux qui est de l'ordre de l'observation, et puis ça peut passer aussi évidemment par le geste, puisque comme vous le savez, cet éloge est un éloge voluptueux, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passent par la caresse, et c'est quelque chose sur lequel j'ai voulu un petit peu insister, parce que je me dis que effectivement c'est tellement évident que le chat est voluptueux, mais la volupté c'est aussi la nôtre quand on le caresse, c'est-à-dire qu'on éprouve un plaisir, le plaisir de la caresse, je pense qu'il fallait vraiment le raconter.
Oui, et vous le racontez effectivement dans l'entrée caresse de ce dictionnaire, c'est une forme de dictionnaire, ouais, de lexique, je sais pas comment.
C'est un abécédaire.
Un abécédaire, voilà. Sauf que on peut effectivement le caresser. Mais il faut faire attention quand on veut lui caresser le ventre, là il est un petit peu plus réticent, il y a des zones interdites.
Ah, hein. Normalement c'est pas toléré. Mais il y a certains chats qui le tolèrent au bout d'un certain temps, mais en général, pour tout félin, méfiez-vous du ventre. Donc ça va du sommet de la tête jusqu'au bout de la queue, là on peut y aller. Et puis évidemment, évitez les parties molles.
Alors
comme
moi je suis directement allé, évidemment, puisque j'ai lu effectivement sur la couverture cet éloge voluptueux du chat. Vous aviez déjà écrit un éloge du chat, donc c'est vraiment le mot voluptueux qui change, hein, comme ça au premier regard. Je suis allé donc directement à l'entrée volupté du livre, et vous parlez, je vous cite, hein, d'un sibarite de la sieste, d'un lucullus de la gamelle, d'un athlète de la volupté également, avec un mot qu'on pourrait presque écrire en majuscule, J-O-U-I-R, le mot jouir.
C'est ça. Mais c'est, on dirait que les chats sont faits pour ça. Les chats sont faits pour éprouver du plaisir. D'ailleurs, on le voit quand ils éprouvent du plaisir, ils peuvent éventuellement se rouler. Mais même, on peut voir un petit sourire fait par le chat. Et c'est très intriguant parce qu'on se demande, enfin, si c'est vraiment un sourire ou si c'est vraiment un lien avec l'être humain. Mais on dirait vraiment un sourire et c'est effectivement à ces moments où ils éprouvent un plaisir palpable.
Oui, alors le sourire du chat, c'est à peu près le seul point sur lequel vous faites un petit peu preuve d'anthropomorphisme. Non, il n'y en a pas tant que ça d'autres.
Oui, mais comment ne pas faire de l'anthropomorphisme? Comment ne pas prêter quelques sentiments humains et comment voilà aborder l'animal sans se reconnaître un petit peu comme si c'était un peu un jeu de miroir?
Voilà. D'ailleurs, vous parlez vous-même non pas d'une ressemblance comme ça innée, mais aussi d'une ressemblance acquise puisque vous parlez du choix que vous avez fait, le choix que vous avez fait d'une marginalité modérée. C'est l'expression que vous avez utilisée. Très 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 curieuse d'ailleurs cette expression marginalité modérée.
C'est ça, mais c'est comme ça que sont les chats, c'est-à-dire que difficile à dire s'ils sont des animaux d'intérieur parce qu'ils préfèrent être à l'extérieur, comme l'indique le mot chat de gouttière. Ils aiment être donc du coup à l'extérieur et à l'intérieur. C'est bien pour ça qu'on a créé des chatières. Finalement, ils sont pas du tout heureux quand la porte est fermée. Et c'est pour moi l'expression de ce goût pour cette marginalité modérée, c'est-à-dire on veut être libre, un petit peu sauvage, mais en même temps, on apprécie quand même un petit peu la civilisation parce que ça nous offre quand même de quoi vivre. Et je pense que je me reconnais totalement là-dedans. C'est-à-dire que j'aime avoir la sensation que je peux partir, voilà, du jour au lendemain, qu'en tant qu'écrivain, je ne dois rien à personne, que je ne vais pas remettre à date précise un manuscrit à mon éditeur ou très rarement. Et en même temps, j'aime avoir un lien quand même avec voilà, avec les gens avec qui je travaille, etc., de pas être totalement ermite, perdu dans une montagne et sans lien avec personne, ça je pourrais pas le supporter. Donc en fait, cette identification, elle est assez évidente.
Mais cette liberté alliée à la recherche du plaisir, c'est réellement le moteur de votre vie tout court et le moteur de votre travail, de votre vie d'écrivain?
Ah ben je suis écrivain et je pense qu'on travaille beaucoup avec ses perceptions, avec son corps, avec ses intuitions. Je pense que par exemple le métier de romancier n'est pas forcément un métier intellectuel, c'est vraiment un métier de l'ordre. C'est autre chose encore. Et comme je suis romancière, même si j'ai écrit cet essai, je me plais à travailler plutôt ce qui est instinctif, ce qui est.
Par exemple, la vue, le regard du félin, c'est aussi une qualité pour un écrivain?
Alors bien sûr, parce que s'il y a un animal qui observe, c'est vraiment le chat. D'ailleurs, il y avait un étymologiste du 8e siècle, il me semble, qui avait pensé que le mot chat, donc catus, venait du mot latin catare, qui voulait dire voir. Donc il pensait qu'en fait, ce qui définissait le chat en premier, c'était le regard, la vue. Et de fait, enfin, comme ses yeux sont très larges, qu'il a un potentiel visuel assez grand, qui lui permet aussi de voir dans la pénombre, etc. C'est d'abord un animal observateur.
Un animal donc qui vit à travers ses sens. On évoquait la vue tout à l'heure. On évoquera bien d'autres sens au cours de cette émission. Et qui dit sensualité dit effectivement aussi recherche du plaisir. Hein. On y revient. Il y a le propre plaisir que l'on a nous à caresser un chat que vous avez vous. Et puis il y a aussi le chat qui peut donner du plaisir aux autres. Hein. Par exemple dans ces fameux bars à chats que vous évoquez à plusieurs reprises. C'est une mode assez récente en Europe, mais qui nous vient du Japon. C'est ce que vous expliquez.
Voilà. Donc apparemment ça a été donc d'après mes recherches les premiers sont arrivés à Taïwan, et puis tout de suite ça a été l'engouement plutôt au Japon où ça s'est vraiment multiplié pour plusieurs raisons. C'est que déjà les Japonais ne peuvent pas forcément avoir un animal de compagnie chez eux parce que leurs appartements sont tellement petits, qu'ils travaillent beaucoup, qu'ils rentrent très tard chez eux, ils peuvent pas forcément s'occuper d'un chat. Alors faut savoir que les Japonais sont fous des chats, c'est sans doute la nouvelle Égypte pour le chat, le Japon. Donc en fait ils ont créé ces bars à chats ou ces cafés des chats pour permettre aux gens qui peuvent pas posséder, enfin posséder, comme si on possédait un chat, qui peut pas s'occuper d'un chat, de venir patiner la fourrure de l'animal à moustache de temps en temps quand ils avaient la liberté, enfin l'occasion de passer un peu de temps libre.
Alors le Japon effectivement est très présent hein, dans cet essai. Stéphanie Hochet, vous les évoquez à plusieurs reprises, par exemple l'artiste français mais d'origine japonaise Fujita, dont les figures de chats se confondent souvent avec celles des femmes, un peu à l'instar du français Baudelaire, comme dans ce poème Le chat que nous allons écouter dans la voix de l'acteur Alain Cuny.
Dans ma cervelle se promène ainsi qu'en son appartement un beau chat fort, doux et charmant. Quand il miaule, on l'entend à peine, tant son timbre est tendre et discret. Mais que sa voix s'apaise ou gronde, elle est toujours riche et profonde, c'est là son charme et son secret. Cette voix qui perle et qui filtre dans mon fond le plus ténébreux me remplit comme un verre nombreux et me réjouit comme un filtre. Elle endort les plus cruels mots et contient toutes les extases. Pour dire les plus longues phrases, elle n'a pas besoin de mots. Non, il n'est pas d'archet qui morde sur mon cœur, parfait instrument, et fasse plus royalement chanter sa plus vibrante corde que ta voix, chat mystérieux, chat séraphique, chat étrange, en qui tout est comme en un ange aussi subtil qu'harmonieux. De sa fourrure blonde et brune sort un parfum si doux qu'un soir j'en fus embaumé pour l'avoir caressé une fois, rien qu'une. C'est l'esprit familier du lieu. Il juge, il préside, il inspire toute chose dans son empire. Peut-être est-il fée, est-il Dieu. Quand mes yeux vers ce chat que j'aime, tiré comme par un aimant, se retourne docilement et que je regarde en moi-même, je vois avec étonnement le feu de ses prunelles pâles, clairs fanaux, vivantes opales, qui me contemplent fixement.
Stéphanie Hochet, c'est fou hein, à entendre Alain Cuny et à entendre les mots de Baudelaire. C'est fou ce que le corps du chat peut avoir d'érotique.
Voilà, il est élastique, il est sensuel, et puis on voit que non seulement Baudelaire le trouve sensuel, mais que Baudelaire éprouve une émotion, un sentiment. Honnêtement, quand on lit Baudelaire, il est rare de ressentir autant de sensualité que lorsqu'il parle du chat. À la limite, il parle plus de sensualité quand il parle du chat que lorsqu'il parle des femmes.
Oui, les deux se confondent. C'est un petit peu l'impression qu'on a quand même. En écoutant, c'est-à-dire on pense à l'une de ses maîtresses.
Voilà, le chat lui évoque sa maîtresse. Donc on pense forcément à la maîtresse Jeanne Duval, qui était danseuse, enfin qui était sans doute quelqu'un de très envoûtant, et ce qui est profond aussi dans ce poème, c'est que on sent non seulement la sensualité mais aussi l'aspect presque impérial et autoritaire, presque on sent qu'il s'adresse aussi à une divinité qui pourrait éventuellement lui faire peur, et cette espèce de passage de l'éventuelle douceur, en tout cas de la sensualité, à ce personnage capable de donner des coups de griffe, voilà, ce personnage dont il juge, il préside, etc. Donc voilà, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait le chat.
Oui, la sensualité et la puissance, hein, d'une certaine façon. Ouais. Et justement, il y a eu aussi un autre personnage que vous citez dans ce livre, une actrice, cette fois-ci, que vous associez au chat, c'est Brigitte Bardot, notamment à propos de cette scène.
Tu vois mes pieds dans la glace?
Oui.
Tu vas être jolie?
Oui. Très.
Et mes chevilles, tu les aimes?
Oui.
Tu les aimes mes genoux aussi?
Oui. J'aime beaucoup tes genoux.
Et mes cuisses.
Aussi.
Tu vois mon derrière dans la glace. Tu les aimes?
Oui, énormément.
C'est vraiment une scène culte hein, du cinéma français, extrait du mépris de Jean-Luc Godard avec Michel Piccoli et Brigitte Bardot. On sent bien la sensualité et ce pouvoir, hein, et on, encore une fois, qui perturbe un petit peu Piccoli, qui sait plus trop ce qu'il en est, hein, effectivement, oui, dans cette scène.
C'est à la fois la voix de Brigitte Bardot, le comportement de Brigitte Bardot. Elle-même se voyait comme un chat, elle se décrivait un petit peu comme un chat. Gainsbourg, lui-même, qui a été fou amoureux d'elle, la décrit comme un chat. Il dit aussi que lors de leur début amoureux, ils étaient tous les deux comme deux chats qui s'observaient. Elle a aussi été comparée au chat, on l'appelait The Kitten en Angleterre. Donc elle a quelque chose du chat, et aussi parce que je trouve qu'elle a aussi quelque chose du chat encore aujourd'hui, parce que elle est pas forcément appréciée, et le chat n'est pas forcément apprécié.
Oui. Mais on sent en tout cas chez vous une vraie admiration pour Bardot malgré toutes les polémiques qu'il y a eu.
Moi, je suis assez claire sur ces choses-là. J'admire Brigitte Bardot pour ce qu'elle a fait. Je n'admire pas forcément Brigitte Bardot pour ce qu'elle a dit. C'est-à-dire que j'admire Brigitte Bardot pour sa carrière, pour l'emblème qu'elle a été, pour l'image des femmes qu'elle a été, pour cette liberté qu'elle a incarnée. Je l'admire aussi pour son combat pour les animaux. Je ne l'admire pas du tout pour toutes ses déclarations politiques, évidemment.
Alors, clin d'œil de l'histoire, à quelques centaines de mètres de la Madrague, la maison mythique de Bardot, il y a la maison du Notre-Dame, hein, qui a aussi beaucoup compté pour les femmes, et visiblement pour vous, Stéphanie Hochet, effectivement, Colette qui, pour vous, incarne la félinité en littérature.
Eh oui. D'ailleurs, elle avait un visage de chat, elle avait des yeux de chat, elle a fini par ressembler énormément à ses chats.
Il y a un mimétisme.
Il y a un mimétisme très très clair. Et puis, il y avait aussi ce goût, un peu comme Brigitte Bardot, pour la provocation, l'une et l'autre ont mis leur corps devant un public. Alors, enfin, on dansait nu, on donnait quelque chose de leur corps, etc. Au public médusé, elles étaient à la fois sensuelles, provocantes et en même temps totalement libres. Donc, elles ont des points communs. Et puis, étonnamment, effectivement, la maison de Colette était située non loin de celle de Brigitte Bardot, à tel point qu'on pense que certains chats, en tout cas les héritiers des chats de Colette, ont sans doute été adoptés par Brigitte Bardot.
Voyez-vous ça? Donc effectivement, il est question de Colette. Alors, vous évoquez d'autres chats d'écrivains, hein, celui de plus exactement de Patricia Highsmith, par exemple, Bébert. Évidemment, le chat de Céline. Et puis Malraux aussi. Alors, vous citez Malraux. Quand le chat s'endort sur ma feuille, j'écris autour du chat.
Oui, oui. Apparemment, il y a plusieurs écrivains qui ont fait ça.
Ouais. On parle de ce que vous faites aussi, Stéphanie Hochet. Quel genre de compagnon ou de compagne un chat est-il pour un écrivain?
Maintenant qu'on écrit sur des ordinateurs, disons que le chat pose pas les mêmes problèmes. Il va éventuellement s'installer sur le clavier.
Voilà, oui.
Il s'installe parfois sur le clavier où il joue avec la souris, mais bon, après tout, c'est normal puisqu'on l'a appelé la souris.
Oui.
Au fond, les écrivains ont tellement aimé le chat, c'est assez évident. Ils se ressemblent. Le rythme du chat convient parfaitement à l'écrivain. Puisque c'est un rythme assez paresseux quand même, hein, parce que comme tout grand fauve, il aime beaucoup dormir. C'est un compagnon qui peut être très calme et très observateur. C'est très agréable d'écrire sous l'œil du chat. De parler des écrivains et parler des chats, c'est une espèce d'évidence.
Oui, et en même temps, en vous lisant, on se rend compte que faire l'amour sous l'œil du chat, c'est un petit peu plus compliqué, visiblement.
Alors, évidemment, tout le monde pourra raconter son expérience personnelle, mais il y a certains chats qui ont l'air de penser que les êtres humains sont pas très bons et en fait que les chats assurent beaucoup plus dans ce genre de choses.
Le duo des chats de Rossini dans VMDN sur RFI avec les voix de Montserrat Marty et Montserrat Caballé qui est décédé il y a quelques jours avec toutes ces variations, hein, Stéphanie Hochet, autour d'un seul mot, ce mot miaou. Comment vous le diriez-vous à l'antenne de RFI ?
Miaou.
Tout simplement.
Voilà.
Vous pouvez le dire différemment.
Après, suivant les accents, j'imagine que apparemment les Égyptiens antiques l'appelaient le miaou.
D'accord.
Mais bon.
Parce que l'Égypte, c'est quand même le premier pays du chat.
Et bien sûr, c'est le premier. En fait, le chat s'est développé donc dans ce triangle du Moyen-Orient. Il a été très bien accepté à partir du moment où s'est aperçu qu'il était très efficace dans la chasse aux rongeurs. Et puis, il est devenu évidemment une déesse, la déesse Bastet, une déesse
un peu ambiguë.
Bien sûr, mais ambiguë. Car cruelle, mais en même temps, c'est grâce à elle que renaît le soleil chaque jour, puisqu'elle tue le serpent qui pourrait en fait envoyer le monde dans le chaos. Voilà, puisque on imagine que le monde existe sur une petite barque à l'intérieur de laquelle se trouve la déesse Bastet, et que voilà, le serpent tente de faire chavirer le navire et que elle parvient à l'éviter.
Au chapitre paix de cet éloge voluptueux de chat que vous publiez, Stéphanie Hochet, aux éditions Philippe Rey, il y a une entrée politique.
Oui.
Et là, c'est très intéressant parce que on se dit, quand on commence à vous lire, je dis bien quand on commence à vous lire, eh bien que le chat, il est peut-être un peu macroniste ou macronien parce qu'il ne se trouve bien ni seulement avec la droite, ni seulement avec la gauche.
Alors, je pense pas, mais pourquoi pas? Mais on va réfléchir. Je voulais vraiment faire cette entrée parce que je m'interrogeais quand même pas mal sur les idées politiques du chat.
Oui.
Tout simplement parce que donc ce personnage de chat a été entré en littérature en symbolisant des personnages très forts. Par exemple, chez Rabelais ou chez La Fontaine, il symbolise des personnages de pouvoir, et généralement assez cruels, assez hypocrites. Mais des personnages donc recouverts d'hermine, peut-être un juge extrêmement sévère, ou peut-être un roi un peu cruel. Donc on va dire que à cette époque-là, à l'époque de la Renaissance, on se méfie du chat et on le voit plutôt comme un royaliste, comme quelqu'un qui profite du pouvoir absolu, quoi. Et puis ça a évolué, en fait, on a aperçu le chat assez différemment. Par exemple, à l'époque romantique, bon, Baudelaire le voit plutôt comme une femme, une sensuelle, et peut-être qu'on l'a vu aussi à ce moment-là plutôt comme un Bakounine, comme un anarchiste. Et c'est un petit peu comme ça qu'on continue de le voir.
Oui. Parce qu'il se moque des règles, voilà. C'est la liberté absolue.
Voilà, donc est-ce qu'il est anarchiste finalement ? Mais en tout cas, enfin, selon mon point de vue, je constate que le chat préfère éviter la démocratie parce que de toute façon, c'est son bon plaisir qui prime avant tout. Donc ça va être ni la droite ni la gauche, mais s'il peut avoir lui du pouvoir sur les choses et en même temps ne pas obéir, ça va lui convenir plutôt. Ouais.
Est-ce que ce serait pas un opportuniste aussi, Stéphanie Hochet, parce que quand même vous rendez hommage à sa flexibilité, comme
oui,
c'est gentiment
vrai.
Dit.
C'est vrai, mais flexibilité qui n'est pas économique, c'est plutôt une flexibilité, on va dire sensuelle. C'est-à-dire si on peut naître ni de gauche ni de droite, mais qu'en même temps on peut ne pas être dans le rapport de force, essayer d'obtenir ce qui est nécessaire pour profiter, mais en même temps sans abuser, voilà, ni de droite ni de gauche. Bon, il arrive à trouver quand même son bonheur.
Oui, parce qu'il y a des vraies capacités politiques quand même. Quand on évoque le chaboté, par exemple, voit que c'est un malin.
Ouais, le chaboté, c'est l'arriviste, en fait. Donc c'est le personnage qui est pauvre à l'origine et qui fait croire qu'il est noble et qu'il parvient parfaitement. Donc c'est vraiment, et en ça on peut vraiment l'admirer, parce que donc il suffit qu'il porte des bottes et un chapeau et tout de suite il paraît noble auprès de la noblesse et auprès du roi.
Bon, pas très positif quand même le mot arriviste, hein, Stéphanie Hochet. C'est vrai que vous n'êtes pas toute seule quand même, de temps à autre, même si vous l'aimez, c'est le moins qu'on puisse dire, le chat, mais de temps à autre vous expliquez quand même à vos lecteurs qu'il a été souvent méprisé, haï parfois le chat. Vous évoquiez La Fontaine par exemple, qui le représente vraiment comme un animal fourbe, dangereux, cruel. Par exemple, vous y faisiez référence il y a quelques instants à cette fable « Le chat, la belette et le petit lapin » que Roger Carrel récitait en pleine classe en France en 1972. Archive.
Du palais d'un jeune lapin, Dame Belette un beau matin s'empara. C'est une rusée. Le maître étant absent, ce lui fut chose aisée. Elle porta chez lui ses pénates un jour qu'il était allé faire à l'aurore sa cour, parmi le thym et la rosée. Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours, Jeannot Lapin retourne au souterrain séjour. La belette avait mis le nez à la fenêtre. « Oh, dieux hospitaliers, que vois-je ici paraître ?» dit l'animal chassé du paternel logis. « Oh là, madame la belette, que l'on déloge sans trompette, ou je désavertir tous les rats du pays. » La dame au nez pointu répondit que la terre était au premier occupant. C'était un beau sujet de guerre qu'un logis où lui-même il n'entrait qu'en rampant. Et quand ce serait un royaume, je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi en a-t-on toujours fait l'octroi à Jean, fils ou neveu de... Je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi en a-t-on toujours fait l'octroi à Jean, fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume, plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi. Jean Lapin allégua la coutume et l'usage. Ce sont, dit-il, leurs lois qui m'ont de ce logis rendu maître et seigneur, et qui, de père en fils, l'ont de Pierre à Simon, puis à moi, Jean, transmis. Le premier occupant, est-ce une loi plus sage? Or bien, sans crier davantage, rapportons-nous, dit-elle, à Ramina Gropius. C'était un chat vivant comme un dévot ermite. Un chat faisant la chatte mite. Un saint homme de chat, bien fourré, gros et gras, arbitre expert sur tous les cas. Jean Lapin pour juge l'agré. Les voici tous deux arrivés devant sa majesté fourrée. Grippe-Minot leur dit:
mes enfants, approchez, approchez, je suis sourd. Les anges en sont la cause.
L'un et l'autre approcha, ne craignant nulle chose. Aussitôt qu'à portée, il vit les contestants, Grippe-Minot, le bon apôtre, jetant des deux côtés la griffe en même temps, mit les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre. Ceci ressemble fort au débat qu'ont parfois les petits souverains se rapportant au roi.
Voilà, incroyable comédien et incroyable conteur que Roger Carrel, Stéphanie Hocher, ce Ramina Gropius, là, quel regard est-ce que vous portez sur lui?
Alors là, c'est évidemment le souverain, l'hypocrite, l'homme cruel, le profiteur. Mais c'est comme ça que La Fontaine voyait les chats. Évidemment, il fait un portrait de son époque. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir combien La Fontaine a été traumatisée par les chats. Et sans doute que, enfin, d'après mes recherches, c'est que à ses débuts, il devait sans doute essayer de lire ses fables en public et devant un public féminin qui apparemment aimait beaucoup caresser les chats pendant qu'il parlait et s'occupait plus de leurs chats, de leurs chattes pendant ses lectures. Donc il a été un petit peu vexé. Peut-être qu'il s'est passé autre chose, mais en tout cas pour lui le chat c'est toujours un personnage négatif. Il y a aucune fable de La Fontaine où le personnage du chat est positif. Il est toujours roublard. Il est toujours cruel. Voilà, on le voit alors, déjà dans cette fable. Mais
alors on peut voir le mal partout. Mais moi j'ai pensé, et je crois que d'ailleurs que vous faites aussi le rapprochement dans le livre, Ramina Gropius fait penser un petit peu au cardinal de Richelieu.
Ah oui, Richelieu.
Qui en avait déjà.
C'est vrai, hein, c'est vrai. Ça fait partie des images importantes de l'époque, donc associées à Richelieu à ses chats, puisque donc bah, Richelieu était déjà très critique, très critiqué. Il était peu aimé pour sa politique auprès des puissants, pour ses histoires d'impôts, enfin qu'il avait fait payer au peuple, etc. Et puis les mousquetaires lui en voulaient beaucoup également. Enfin bref, Richelieu personnage de l'État détesté, et comme par hasard, Richelieu adorait les chats et en particulier les persans. Donc je pense qu'on a fait l'association homme malveillant, homme qui aime les chats. Et donc, apparemment, il passait énormément de temps avec l'ensemble de ces persans. L'une de ces chats, qui était une chatte, s'appelait Soumise, c'est tout dire, tout de même.
Oui.
Il y en avait un qui s'appelait Lucifer.
Oui,
alors
ça, c'est quand même extraordinaire pour un homme d'église,
ouais,
quand même.
Tout à fait.
Et nous y voilà, d'ailleurs, ouais. Stéphanie Hocher, parce que le chat a longtemps été considéré comme maléfique. Et si on continue à remonter un petit peu l'histoire, on en arrive au Moyen-Âge. Alors là, ils ont pris cher quand même.
Alors surtout à la fin du Moyen Âge, les chats pâtissent des superstitions. Il y a deux papes qui s'acharnent contre eux quand même. Donc Grégoire IX, Innocent VIII, qui écrivent des bulles à propos de la sorcellerie et la sorcellerie qui fait partie, enfin qui prend en compte le chat, donc les sorcières sont accusées, etc. Avec leur chat, on dit précisément que le chat est un animal diabolique. Et donc, c'est pour ça qu'il faut l'envoyer au bûcher avec les sorcières.
Mais pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il a de si diabolique, ce pauvre chat?
Alors, le chat est perçu comme un animal diabolique parce que déjà, c'est un animal nocturne. Donc, comme le Moyen-Âge déteste les animaux nocturnes, parce que c'est les animaux forcément qui vivent la nuit, c'est-à-dire qu'ils se rapprochent du malin. Normalement, tout bon chrétien ferme les yeux la nuit tombée et dort et il ne se passe plus rien jusqu'au matin. Mais le chat, il se trouve que le crépuscule, il aime beaucoup, la nuit, il aime beaucoup aussi. Donc, il est associé au crabe. Il est associé à la chouette, il est associé à tous ces animaux en fait qui vivent la nuit, donc il est associé à quelque chose de négatif. Et puis bon, le chat a un comportement parfois diabolique, hein, faut pas se cacher.
Hein. Bon, on le jette du haut du clocher quand même, ce pauvre chat, l'embroche, brûle parfois. Et puis même un peu plus tard, hein, vous racontez une histoire extraordinaire que j'ignorais complètement, ça se passe au XVIIe siècle à Paris, dans le quartier Saint-Séverin.
C'est ça, il y a une espèce de Saint-Barthélemy des chats à cette époque.
On est à deux pas de Notre-Dame, hein, pour bien situer.
Exactement, donc il y avait des ouvriers qui étaient particulièrement maltraités par leur patron, un patron qui adorait sa chatte grise, qu'il gâtait en lui donnant des petits morceaux de poulet, etc. Et les ouvriers qui étaient particulièrement maltraités sont devenus un peu fous et se sont mis en fait à massacrer les chats. D'abord la chatte du patron, mais ensuite il y a eu un mouvement comme ça d'entraînement et plusieurs personnes se sont mis en fait à attraper des chats, à les éventrer, à les égorger, etc. Donc ça a duré apparemment une semaine. Il s'est passé quelque chose d'épouvantable pour les chats pendant cette semaine, comme si en fait le chat était le symbole du patron ou de la personne qui abuse du peuple.
Historiquement, Stéphanie Hochet, le chat noir est particulièrement honni, particulièrement visé par la vindicte populaire?
Alors, dans la religion catholique, enfin, en tout cas, dès le Moyen-Âge, le noir est une couleur honni, le noir est couleur de maléfice, etc. Donc, le chat noir, donc déjà, c'est un chat, mais en plus, il est noir, c'est vraiment l'animal du démon. Il est parfois un petit peu sauvé s'il a quelques poils blancs. Donc là, on pense que c'est le doigt de Dieu qui le sauve du trépas, mais le chat noir, c'est vraiment l'animal à brûler rapidement au bûcher.
Alors le chat, ça se rapproche effectivement assez souvent de la sorcellerie, parfois de la magie positive aussi, hein, ouais. Comme le chat de Marcel Aimé, par exemple, bon, on le connaît, la patte
c'est
du
ça,
chat, hein, donc il arrive
ça.
À faire pleuvoir en passant ça. La patte derrière son oreille.
Voilà, et ça lui permet de se prélasser s'il veut rester chez lui. Enfin, voilà, il profite complètement de son pouvoir sur la météo, il suffit de passer la patte derrière l'oreille et il se met à pleuvoir, comme le dit le dicton. Enfin, Marcel Aimé en fait quelque chose de vraiment très drôle, de vraiment très, très espiègle.
Voilà, et puis il y a également le chat du Cheshire de Lewis Carroll, oui, dans Alice au Pays des Merveilles.
Vous avez perdu quelque chose?
Oh non, pas du tout. Je me posais seulement une question.
Oh, ça n'a aucune importance. Oh, un petit moment. Oh. Second couplet. Fleur bageant, les rhododendrons, j'irai et j'y gamblerai dans les vagues.
Mais vous êtes un chat?
Oui, un chat fouin. On frimait vers les pétunions.
Attendez, ne vous en allez pas.
Ne craignez rien. Troisième couplet.
Oh non, je vous remercie, mais je dois savoir quel chemin je dois prendre.
Eh bien, cela n'est pas de l'endroit où vous désirez vous rendre.
Oh, ça n'a guère d'importance, l'essentiel.
Alors, il est inutile de vous tourmenter. Un chemin, volons.
Ouais, vous avez été frappé, hein, Stéphanie Hochet, par le sourire, le très large sourire du chat du Cheshire. Quel souvenir ce personnage-là vous a-t-il imprimé?
Oh, j'ai vu le film quand j'étais gamine, et puis j'ai lu le texte aussi, parce que bon, j'ai fait des études d'anglais, donc on s'intéressait beaucoup au texte à Alice au Pays des Merveilles, parce que c'est un petit miracle d'interrogation sur la langue et sur la phonétique. Donc on s'aperçoit qu'en fait c'est un texte qui peut être lu par les adultes aussi bien que par les enfants. C'est un miracle de logique aussi, sachant que la logique est, par exemple dans cette phrase, j'ai déjà vu un chat sans sourire, mais jamais un sourire sans un chat, s'exclame donc Alice, puisqu'il ne reste que le sourire après que le chat a disparu. Et ça s'explique aussi par en fait une espèce de dicton qui existe en Angleterre, qui dit que les chats du comté de Cheshire sont des chats souriants, tout simplement parce que c'était un endroit où le lait était particulièrement crémeux, et comme les chats allaient goûter le lait, il leur restait une sorte de trace qui formait un sourire. Donc en fait, les chats étaient souriants.
Donc enfant de la littérature êtes-vous, hein, Stéphanie Hochet, enfant du dessin animé aussi, parce que il y a beaucoup de références, hein, à travers ce livre.
Bah oui, je viens d'une génération qui regardait quand même pas mal de Walt Disney, pas mal de tous les dessins animés de l'époque. Et
par exemple, il y a Miyazaki, Totoro, hein, avec le Chabus.
C'est vrai. Alors
réussi complètement à percer le mystère du Chabus.
Mais non, parce que je comprends pas. En fait, ça pour le coup, c'est pas vraiment de ma génération, mais c'est assez contemporain, mais En fait, j'imagine que c'est parce que les Japonais sont tellement fascinés par le chat qu'ils l'associent au bus. Mais j'ai vraiment pas compris le lien, en fait. Mais bon, on va dire que c'est assez poétique.
Oui, et puis il y a aussi Garfield. Alors là, c'est complètement votre génération, pour le coup, et même la génération suivante. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Garfield, vous pouvez nous le présenter, Stéphanie?
Alors, Garfield est un gros chat roux anglais, complètement cynique, qui passe son temps à manger des lasagnes, à se reposer, à faire des petites remarques cyniques à propos de ce qui se passe autour de lui. Donc il taquine légèrement son maître, et puis le chien un peu idiot qui trotte autour de lui, qui s'appelle Audi. Et Garfield a toujours des petites remarques et philosophiques et drôles à dire sur la vie. Et puis, on va dire qu'il est plutôt zen, hein, il est plutôt calme.
Oui, il s'énerve pas. Et en même temps, il aime bien un peu paresser. Voilà,
c'est ça.
Et profiter de ses lasagnes, de ses repas, parce qu'il est quand même sacrément gourmand, voire sacrément glouton.
Voilà.
Et ça, c'est une tendance, sans mauvais jeu de mots, assez lourde quand même pour les chats dans la fiction.
Oui, parce qu'en fait, on a beaucoup voulu aux chats d'être gourmands, gloutons. C'est quelque chose qu'on leur reproche au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on voulait bien des chats dans les maisons pour chasser les souris, mais comme par hasard, le chat allait aussi goûter le saucisson, quoi. Donc le chat prenait généralement une rouste. Et puis, il y a pas mal de petites chansons, de chansonnettes, de poèmes autour de cette histoire, quoi. De chat qui, en fait, est normalement préposé à la chasse aux souris, mais qui va au-delà.
Voilà, donc un chat gras. Ah, s'en écœurer, écrira même Émile Zola un peu plus tard, Stéphanie Hochet. Puis il y a le chat de Gueluc quand même aussi.
Voilà. Il y a le chat de Gueluc qui ressemble à Gueluc quand même, qui a les expressions de Gueluc et qui a un humour belge aussi, je trouve, hein, un humour un peu particulier.
Voilà, et il sera d'ailleurs dans VMDN dans quelques semaines. Et puisqu'on évoquait l'enfance avec vous, Stéphanie Hochet, il y a aussi ceci.
Salut! Eh bien oui, me revoilà. Téléchat continue. Après une courte interruption due à un accident personnel, nous revenons en force avec une formule nouvelle. Voici Lola. Téléchat ne sera donc plus seulement la télévision des poils, mais également la télévision
des plumes.
Voilà, merci, hein, beaucoup Stéphanie Hochet de nous permettre de nous replonger dans ces souvenirs télévisuels-là. Alors, Téléchat, C'est un programme de télé complètement non identifié, j'allais dire complètement surréaliste, mais c'est pas étonnant que ce soit surréaliste.
C'est ça, bah oui, puisque c'est Topor qui écrit pour cette émission dédiée aux enfants, sauf que je me demande si les enfants étaient les meilleurs spectateurs, parce qu'à mon avis, il faut être adulte pour l'apprécier, mais bon, oui. Moi je le regardais gosse.
Faut pas le voir au premier degré, ça peut faire peur d'ailleurs, avec tous ces objets comme ça qui parlent et qui prennent vie.
C'est ça, exactement, puisqu'on parle beaucoup, tous les objets sont animés, voilà, il y a aussi des espèces de monstres légumes, il y a plein de choses très très bizarres, et puis il y a ce chat très charismatique avec sa patte ou son bras dans le plâtre, et qui est en fait le présentateur vedette de Téléchat.
Voilà, du surréalisme de Topor, on passe à la lettre T. Hein, on arrive bientôt à la fin de ce petit dictionnaire, de cet éloge voluptueux du chat. Donc T comme Téléchat, on passe à la lettre U comme utopiste. Du surréalisme à l'utopie, on n'est pas si éloigné que ça, quoi. Quelle est la philosophie du chat, selon vous, Stéphanie Hochet? On parlait de politique tout à l'heure, mais comment son rapport à la vie, son rapport à l'existence, son rapport à Dieu?
Alors, je vois l'utopiste en lui, puisque il suffit de l'observer. Le chat, par exemple, est un excellent grimpeur, donc il va le grimper en haut des cimes, mais un arbre ne lui fera jamais peur. Par contre, il s'interroge jamais sur l'idée de redescendre, et souvent il se retrouve un petit peu coincé. Donc, et pour moi, c'est vraiment une image de l'utopiste, c'est-à-dire que on a des grandes envolées, on a des vraiment de, on va de l'avant, on y croit, et puis on ne voit pas forcément la réalité et puis les conséquences de ces idées.
Donc voilà, le chat, il retombe pas forcément sur ses pattes alors.
Des fois, c'est trop haut pour qu'il retombe sans se faire mal. Donc c'est comme ça qu'on voit des chats tout en haut de certains sapin ou en haut d'un toit et miaulant désespérément, et c'est là que les gens commencent à avoir pitié, appellent éventuellement les pompiers, etc., et que ça fait tout un espèce de spectacle où les gens viennent voir et commenter, et applaudir, etc.
Mais alors, quand Hippolyte Taine, que vous citez, hein, parle de la philosophie des chats et qui dit « j'ai beaucoup étudié les philosophes et les chats, la sagesse des chats est infiniment supérieure », bon, on se dit, là, en vous écoutant, que les chats ne sont pas toujours si sages que cela.
Mais c'est-à-dire que c'est difficile d'être en application avec sa philosophie, hein.
Voilà, comme pour beaucoup de gens d'ailleurs, pas seulement
pour prenez chaque philosophe.
Pour les chats. Alors justement, vous évoquez le sapin à l'instant, ça c'est très drôle, et c'est vrai que je pense que tous ceux qui ont eu un chat dans leur famille un jour ont pu constater, c'est vrai qu'il y a un ennemi incroyable pour le chat, c'est le sapin de Noël.
C'est une provocation pour un chat. C'est insupportable pour un chat de voir un sapin de Noël, et surtout avec les petites guirlandes et tout ce qu'on va y accrocher, parce que c'est quand même provoquer beaucoup le chat. Donc généralement, il s'en prend au sapin, et on voit des choses, on voit pas mal de choses comme ça sur Internet, et on voit ce que le chat peut faire et avec ce pauvre sapin, mais en fait c'est le chat qui a raison, quoi. Ce sapin est insupportable.
Oui, le chat le véritable ennemi du chat, c'est le sapin plus que le chien, Stéphanie Hochet, parce que vous évoquez quelques chiens au détour de vos pages, en particulier dans ces fameux dialogues de Colette.
Dialogues de bête, de Colette, qui est un petit chef-d'œuvre que j'ai relu récemment, donc pour écrire ce livre. C'était en fait le premier livre que j'ai lu enfant, je devais avoir 9 ans, et ça m'avait complètement fascinée, en fait. J'étais capable aussi de le lire à cet âge-là. Et aujourd'hui, je l'ai relu récemment et je trouve que c'est d'une telle beauté. En fait, avec des choses très simples, Colette nous emmène dans une poésie. Son écriture est tellement délicate, merveilleuse, drôle. Voilà, elle peint en fait un chat et un chien qui dialoguent, et elle montre à quel point ils s'entendent bien, parfois ils s'insupportent, et voilà, et puis parfois le chat dit dès qu'on parle de manger, ça me donne faim, c'est irrésistible, etc., et ça nous renvoie à Glouton, etc.
À quand un éloge du chien signé Stéphanie Hochet?
Ah là là, il faudrait que je me sente un peu chien, et hélas pas tellement, mais bon, je n'ai rien contre les chiens.
Merci beaucoup Stéphanie Hochet d'être passée nous voir. Votre éloge voluptueux du chat est paru, je le rappelle, aux éditions Philippe Ray.
Merci.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Prenons à présent la direction de l'Argentine avant de se quitter pour évoquer la vie du compositeur et musicien Astor Piazzolla dans la deuxième moitié du XXe siècle. Ce génie du bandoneon, un instrument avant proche de l'accordéon, a complètement renouvelé le tango. Jusqu'ici, et c'est très étonnant, aucun film n'avait été réalisé sur lui. C'est maintenant chose faite avec Piazzolla, Les années du requin, qui est actuellement dans les salles en Argentine et que notre correspondante Aude Villiers-Moriamé a vu pour nous.
Soy un tipo de mal carácter porque me atacan mucho precisamente. Pero
j'ai un sale caractère, mais c'est parce qu'on m'a beaucoup critiqué. Astor Piazzolla n'était pas quelqu'un de consensuel, c'est ce qui ressort de ce documentaire. Un artiste colérique et passionné qui n'a pas hésité à bousculer l'univers du tango, comme l'explique le réalisateur Daniel Rosenfeld.
Pour moi, c'est un rocker parce qu'il a lutté beaucoup toute la vie et dans ce moment, il a changé quelque chose. Il a dit, je vais faire une musique pour écouter, pas pour danser dans les cabarets ou dans les salons, c'est une autre chose, un nouveau tango.
Si Piazzolla réinvente ce genre musical à partir de la fin des années 50, ce n'est pas seulement parce qu'il emploie de nouveaux instruments ou parce qu'il accélère le tempo du tango. C'est aussi parce que le compositeur argentin a eu de multiples influences.
Il a habité à New York dans les années 20 et 30. Il a écouté des musiques juives parce qu'il habitait dans les quartiers juifs et les quartiers italiens aussi. Et c'est intéressant pour moi les concepts de l'immigration musicale parce que c'est pas seulement un musicien de tango, c'est un musicien international parce qu'il a, comme dit en argentin, il a mangé toutes les musiques de tout le monde. Tu peux écouter les premières tangos, Bartok, Debussy, c'est vraiment dans la musique d'Astor.
Astor Piazzolla avait deux grandes passions dans la vie, jouer du bandoneon et pêcher le requin, d'où le titre du documentaire Piazzolla, les années du requin. Le film, qui a été coproduit par l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel Français, comprend de nombreux extraits de concerts et d'interviews partout à travers le monde. Pour le reste, c'est plutôt un film intime. De vieilles cassettes familiales tournées en Super 8 nous montrent les sessions de pêche de Piazzolla, ses balades à New York ou à Paris. Tout au long du documentaire, c'est la voix du fils du musicien, Daniel Piazzolla, qui raconte.
J'ai eu le malheur de lui dire les six mots les plus violents de sa carrière. Tu fais un pas en arrière. Et cela, ça nous a valu de ne plus nous parler pendant plus de 10 ans.
À Buenos Aires, avant chaque séance, Daniel Rosenfeld présente le film en salle. Touche d'originalité, il vient accompagné d'un bandoneoniste qui joue un morceau de tango avant la projection, comme c'était la coutume dans les cinémas argentins au début du siècle. Lautaro Greco, jeune bandoneoniste.
Je joue du bandoneon depuis que j'ai 10 ans. Et depuis que j'en ai 15, je suis un fan inconditionnel de Piazzolla. J'aime me sentir proche de lui. Astor, c'est une icône, un révolutionnaire.
Le film, déjà en salle depuis 6 semaines, rencontre un franc succès en Argentine. Matteo, 30 ans, n'a jamais vraiment été un fan de tango. Pourtant, il est ressorti du cinéma enchanté.
J'ai toujours pensé que le tango était une musique pour les touristes et les personnes âgées. Mais là, j'ai découvert quelque chose de nouveau. Ce tango, je n'aurais jamais pu le découvrir tout seul. Rien que pour cela, ça vaut vraiment la peine de voir ce film.
Mélancolique et fascinant, le documentaire Piazzolla, les années du requin sortira en France début 2019.
Reportage d'Audevilliers, Moriamé, pour conclure cette émission. Dans un instant, l'info, on se retrouve demain, toujours pour parler littérature, cette fois avec l'écrivain Laurent Sexic, qui publie Un fils obéissant chez Flammarion, et vous m'en direz des nouvelles.
Partagez vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.